France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Au programme de l'émission qui vient, trois livres philosophiques dont il fut beaucoup question lors de leur parution en 1966 et qui, des décennies plus tard, sont tout autant lus et commentés. Les mots et les choses de Michel Foucault, écrit de Jacques Lacan, la mort de Vladimir Jankélévitch. Résumons-nous, il sera question de l'être énigmatique, susceptible de l'histoire, susceptible d'histoire, un être parlant, vivant, travaillant, bref, l'homme. On peut difficilement écrire sur la mort, disait Jankélévitch. Ce sujet ne se prête pas à la conceptualisation. Première diffusion sur France Culture le 8 février 1967.
Pierre Cipriot vous présente 10 ans de création philosophique.
Le programme que vous allez entendre complète et achève l'émission qui a été diffusée le 28 janvier de 14h10 à 16h10 sur France Culture. Nous avions alors essayé de voir quelle a été l'histoire de la philosophie française depuis 10 ans, dans quelle mesure ce qui s'est passé en philosophie a été une nourriture vivante pour la recherche elle-même, mais aussi par l'influence de la philosophie, son rayonnement, une sorte de fécondation pour les sciences humaines et la création artistique. Cette première émission de 2 heures, diffusée dans la semaine de France Culture consacrée à 10 ans de création dans les lettres et dans les arts, cette première émission, je l'avais ordonnée en 4 compartiments. Premièrement, la recherche en sociologie avec Georges Balandier, Jean Cazeneuve, Jean Duvigneau, Henri Lefebvre. Deuxièmement, les études marxistes avec François Châtelet, Roger Garoudy et Henri Lefebvre. Troisièmement, la philosophie et les arts avec Ferdinand Alquier, Yvon Bellaval, Jean Duvigneau. Quatrièmement, la recherche métaphysique avec Claude Bruère, Jean Guiton de l'Académie française, Gabriel Marcel de l'Institut. Dans le programme de ce soir, je vais diffuser 3 interviews. De Michel Foucault, de Vladimir Jankélévitch, de Jacques Lacan. J'ai groupé ces 3 auteurs car ils ont publié, au cours des 6 derniers mois, 3 livres dont on a beaucoup parlé et qui, sans se rattacher les uns aux autres par des analogies, sans concordance profonde, traduisent l'aptitude de nos contemporains à penser, à raisonner et à lire à l'échelle des dernières acquisitions de la connaissance, si j'ose employer cette expression. Car ces 3 livres difficiles ont été très lus. Les mots et les choses de Michel Foucault, publié chez Gallimard dans la collection Sciences humaines que dirige Pierre Nora, ce livre de Michel Foucault a passé en 6 mois les 30 000 exemplaires. Les écrits de Jacques Lacan, publiés en novembre au Seuil, prennent le même départ et La mort de Vladimir Jankélévitch, publié chez Flammarion dans la collection Nouvelle Bibliothèque Scientifique que dirige Fernand Brodel, La mort de Vladimir Jankélévitch a été signalée par 2 critiques sur 7 comme l'un des livres essentiels de l'année dans le bilan 1966 du bulletin du livre. Voici tout d'abord une interview de Michel Foucault, interview qui a été prise à Tunis par le représentant de l'ORTF. Michel Foucault est en effet professeur à la faculté des lettres de Tunis. Les mots et les choses est une réflexion sur le difficile ajustement des modernes sciences humaines qui veulent penser l'homme selon des catégories empruntées aux 3 domaines de la biologie et de la psychologie, de l'économie, de l'étude du langage, le difficile ajustement donc de ces sciences humaines fondées par Auguste Comte, Marx, Freud, de Saussure et l'ethnologie de Claude Lévi-Strauss, avec la tradition de l'humanisme. Dans la tradition de l'humanisme, en effet, l'homme défini tantôt par la raison, tantôt par la liberté, L'homme devait accéder à cet ordre de raison ou de liberté pour être. L'homme donc se définissait par quel qu'en soit, par une nature a priori, par ce qu'il croyait être ou voulait être, ou en tout cas par une aptitude à se nier lui-même, comme on le voit chez Sartre. Et dans tous les cas, l'homme de l'humanisme se définit par ce qui l'oppose au vécu. Ce vécu que la réflexion de ces dernières années essaie au contraire de coordonner, de rassembler, pour en faire la seule mesure de l'homme. Le très grand succès du livre de Michel Foucault, « Les mots et les choses », s'explique sans doute par ce qu'il nous introduit d'emblée dans ces voies contradictoires et interrogatrices de la conscience contemporaine avec une intensité peu commune. Michel Foucault dialogue avec Pierre Serra, à qui je laisse la parole.
Je voudrais que, pour nos auditeurs, vous nous expliquiez ce que vous avez voulu démontrer dans Les mots et les choses, ce que vous avez voulu prouver, et s'il s'agit là d'une nouvelle école philosophique qui s'opposerait par exemple à ce qu'a été pour toute une génération de Français l'existentialisme.
Pensez bien que je n'aurais pas la prétention de m'opposer en quoi que ce soit à une expérience et à un discours philosophique aussi important qu'ont été l'expérience et le discours philosophique de Sartre. Non, ce que j'ai voulu faire, c'est quelque chose de tout à fait modeste. Disons, si vous voulez, que j'ai été frappé par quelque chose, c'est l'importance qu'a prise depuis un certain temps, depuis longtemps, depuis un siècle et demi, deux siècles peut-être, cette question, qu'est-ce que l'homme ? Mon problème a été de savoir d'où vient, où s'enracine dans notre culture cette question, qu'est-ce que l'homme ? Bien, en regardant les choses d'un regard un petit peu méticuleux, c'est-à-dire avec un regard historique, il m'a semblé que cette question était infiniment plus récente qu'on ne peut l'imaginer. Vous me direz que tout de même, le XVIe siècle a bien été par excellence le siècle de l'homme, ou en tout cas le siècle de l'humanisme. Mais il ne faut tout de même pas oublier que le mot humanisme dans la langue française est un mot très récent, on ne le trouve pas dans le littré, et il est bien probable que c'est par une sorte de formidable architecture rétrospective que l'on a bâti cette philosophie, ce souci, cette inquiétude de l'homme dans la culture du XVIe siècle. Il est probable que la culture du XVIe siècle ne connaissait pas cet humanisme et cette question de l'homme telle que nous les connaissons maintenant. Alors, d'où est-ce que ça nous vient, l'homme ? J'ai été frappé par le fait qu'au XVIIe, au XVIIIe siècle, bien sûr, on trouve des traités de l'homme, on trouve des analyses de la nature humaine, de l'entendement humain, on cherche ce que c'était que l'homme à l'état de nature ou à l'état primitif. Et pourtant, on ne peut pas dire que le XVIIe et le XVIIIe siècle soient à proprement parler des formes de pensée, de culture qui soient commandées par la question « qu'est-ce que l'homme ?». Je crois, si vous voulez, que ce qui caractérise la culture du XVIIe et du XVIIIe siècle, c'est une sorte de rapport, enfin c'est la tentative, pour établir un rapport direct, immédiat, contrôlable, entre le discours et la vérité. Comment est-ce qu'un discours peut être tel qu'il est susceptible d'atteindre à la vérité ? Ce que le XIXe siècle, dès son début d'ailleurs, a inventé, c'est précisément à cette question un troisième terme. Le XIXe siècle a substitué à cette ligne vérité-discours, à cet axe bipolaire de la vérité et du discours, il a substitué un triangle. Un triangle au sommet duquel il y a l'homme. On a découvert, enfin, on a inventé, on a suscité en tout cas, entre la vérité et le discours, ce troisième terme qui est l'homme, l'homme qui serait l'être dont le discours est tel qu'il est capable d'atteindre à la vérité. C'est donc à l'être de l'homme, à l'essence de l'homme, au mode d'existence de l'homme, à sa présence dans le monde, qu'il faut demander compte de ce fait qu'il peut y avoir dans le monde un discours qui est capable de vérité. Je crois que cette invention de l'homme comme terme moyen entre le discours et la vérité est liée à toute une série d'analyses qui ont été faites à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, sur ce que c'était que le langage, sur ce que c'était que le travail et ce que c'était que la vie. Il est en effet tout à fait curieux, tout à fait caractéristique de voir que ces trois disciplines, pour nous maintenant fondamentales, que sont la philologie et la linguistique d'une part, comme étude du langage, l'économie politique, comme étude, si vous voulez, de la production et du travail, et enfin la biologie, comme science de l'organisme et de l'être vivant, il est caractéristique de voir que ces trois disciplines sont apparues simultanément dans les toutes dernières années du XVIIIe siècle, dans les toutes premières années du XIXe. Ces trois disciplines, elles ont fait surgir à l'intérieur d'un domaine qui était celui de la représentation, c'est-à-dire des rapports directs du discours et de la vérité, et elle a fait surgir cet être énigmatique à l'origine de toute représentation, à l'origine aussi de toute vérité, cet être énigmatique et susceptible d'histoire, cet être parlant, cet être travaillant, cet être vivant qu'on appelle l'homme. Et c'est cette chose nouvelle, cette masse épaisse, constituée, créée, découverte, façonnée par ces trois disciplines qui a constitué, je crois, ce qu'on pourrait appeler l'homme moderne, à la fois comme objet de connaissance et comme forme d'existence.
En somme, c'est dans ce triangle, cette trinité, presque pour vous, qui existe et qui est le suivant, d'une part le discours, d'autre part les choses, et au milieu, en charnière, l'homme, que se situe l'origine et la genèse des sciences humaines.
Il me semble en effet qu'à partir du moment où l'étude du langage, l'étude du travail et l'étude de la vie ont désigné ce point à la fois obscur et lumineux qu'est l'homme, il me semble que c'est à partir de là que le domaine des sciences humaines a pu se constituer. Il me semble que cette interrogation sur l'homme s'est manifestée par l'apparition de deux domaines. D'une part, un domaine épistémologique qui est celui des sciences humaines, et d'autre part, un domaine éthique, moral, un domaine politique aussi, qui serait celui de l'humanisme. En ce qui concerne les sciences humaines, elles sont nées, je crois, à partir de la formidable mutation qu'a entraînée dans notre culture la constitution de sciences comme la biologie, comme l'économie politique et la philologie. En un sens, les sciences humaines ont reposé dès l'origine et reposeront sans doute longtemps sur ces trois domaines d'analyse absolument fondamentaux que sont les analyses du travail, du langage et de la vie. Il est absolument certain que les sciences humaines, dans la mesure où elles font partie de cet édifice général de la science moderne, n'ont pas à être récusées comme si elles étaient des fausses sciences. Elles font certainement partie de la configuration générale de notre savoir, mais on peut supposer aussi que lorsque cette configuration viendra à se modifier d'une façon fondamentale, eh bien les sciences humaines disparaîtront. Quand je dis que les sciences humaines disparaîtront, je ne veux pas dire qu'elles s'effaceront, qu'elles s'effondreront, comme a pu s'effondrer par exemple l'alchimie, quand la chimie s'est constituée. Je veux dire qu'elles subiront elles-mêmes une mutation telle qu'on ne pourra probablement plus y reconnaître le lien qui a été longtemps évident entre leurs analyses et la question fondamentale, qu'est-ce que l'homme ? Je suis en effet frappé par le fait que actuellement, dans leur développement tout à fait contemporain, les sciences humaines, au lieu de mettre à jour cette essence de l'homme qui semblait être l'objet privilégié de leur recherche au début du XIXe siècle, au lieu de mettre à jour cette essence de l'homme, mettent à jour quelque chose de tout à fait différent. Ce qu'elles mettent à jour, eh bien, ce sont des systèmes, ce sont des réseaux de nécessité, ce sont des formes à l'intérieur desquelles l'homme fonctionne en quelque sorte comme un point, comme un élément, au lieu d'être ce à partir de quoi les systèmes et les formes viennent au jour et se manifestent. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'il y a un homme qu'il y a des systèmes et qu'il y a des formes, c'est au contraire à l'intérieur des systèmes et des formes que l'homme apparaît comme une figure, comme un point, comme un élément qui a son rôle et qui a sa fonction. Cette inversion du rapport homme-système est probablement caractéristique de ce qui se passe actuellement dans les sciences humaines et aussi doit être un signe annonciateur d'une prochaine mutation dans la configuration épistémologique.
Vous venez d'entendre Michel Foucault, auteur du livre « Les mots et les choses » publié chez Gallimard dans la collection « Sciences humaines » dirigé par Pierre Nora. Dans quelques instants, je vais poser quelques questions à Vladimir Jankélévitch, professeur à la Sorbonne, qui vient de faire paraître un livre sur la mort dans la collection Nouvelle Bibliothèque Scientifique que dirige Fernand Braudel aux éditions Flammarion. Nous nous trouvons là encore avec Vladimir Jankélévitch devant une philosophie interrogatrice, une philosophie néanmoins très équipée, si l'on peut dire, une philosophie qui dispose de toutes les forces de compréhension et de conception forgées par la tradition culturelle occidentale de Platon à Tolstoï. Une philosophie usant aussi de l'outil le plus subtil tel qu'il a été mis au point par la phénoménologie. Et tout cela pour se porter vers ce qui est au-delà de la vérité, la mort. Les mots et les choses, il y a des choses qui sont dans la sphère de la non-conscience et pour lesquelles les mots ne sont que source de confusion. Et cet indicible, c'est peut-être ce qui définit au juste l'homme et donne par conséquent la mesure de son aptitude philosophique. Vous écrivez vous-même au début de ce livre sur la mort que la mort n'est pas un sujet philosophique, qu'on pourrait écrire une physique de la mort, qu'on peut difficilement écrire une philosophie de la mort. De même, vous avez pris le sujet de l'ironie. Peut-être pourriez-vous nous dire ce qui vous oriente vers ces sujets qui apparemment ne se prêtent pas à la conceptualisation.
Mais je crois que mon défaut, mon péché depuis longtemps, c'est de chercher en quelque sorte des cas limites, des situations aux frontières, n'est-ce pas ? L'homme des confins, comme disait Léon Chestov. Et enfin, si je cherche moi-même à m'expliquer pourquoi je choisis certains sujets, j'arrive justement à cette conclusion que ce qui est intéressant, c'est peut-être ces moments aigus dans lesquels l'homme est à la cime de lui-même, n'est-ce pas ? En quelque sorte intermédiaire entre l'être et le non-être, comme dans la mort. J'ai écrit des bouquins sur la pureté, le pur et l'impur, également dans la collection de Flammarion. J'ai parlé du je ne sais quoi, du mystère, chez Debussy, de l'ineffable, la musique est l'ineffable. En morale, les problèmes des extrêmes. Ce qui m'intéresse, c'est les extrêmes. Alors évidemment, ces extrêmes ne sont pas l'objet d'une expérience, d'une observation, n'ont pas de caractère empirique. Si vous voulez, ce livre sur la mort alors est comme un exercice acrobatique, où il s'agit, comme vous l'avez dit, de penser tout ce qui est pensable dans l'impensable, puisque la mort est impensable. Et que pour cette raison, beaucoup de philosophes pensent que ce n'est pas, en effet, un objet philosophique. À quoi Spinoza ajoute contre Platon qu'il faut méditer sur la vie et non pas sur la mort, que la sagesse consiste à méditer sur la vie. Bergson est presque du même avis, au fond, puisque pour lui, la pensée s'exerce dans la plénitude de l'être, de l'existence. Alors comment faire pour penser ce qui ne peut pas être pensé ?
Il y a eu autrefois une discussion mémorable à la Société de philosophie quand on mettait en place le dictionnaire de la langue. Je crois que c'est une discussion qui opposait Brunswick et d'autres philosophes. Et Brunswick avait pu dire à ses philosophes qu'ils étaient du côté de la mort, alors que lui était du côté de la vie. Enfin, ce qui est assez frappant dans votre livre, c'est qu'en vous heurtant constamment à cet insoluble de la mort, c'est constamment une philosophie de la vie qui s'exprime, puisque enfin, c'est toujours le passage à la limite de la vie, et montrer que la mort, étant un extrême, étant quelque chose difficile à situer, quelque chose auquel on ne peut pas penser, tout cela vous renvoie vers les forces de la vie que vous essayez de penser dans même dans leurs limites, et leurs limites, c'est la limite de la mort.
Alors il est vrai, comme vous le dites, que finalement c'est de la vie que je parle, d'une fatalité, n'est-ce pas ? À quelque moment qu'on parle, quel que soit le sujet que l'on traite, il est toujours vital, car la vie ne me parle que de la vie. De même que quand je regarde ce jardin ne me parle pas de son propre néant. Il me parle de lui-même. La pelouse me dit la pelouse, les bancs me disent bancs, les arbres sont des arbres, et chaque chose ne parle que d'elle-même, elle ne parle pas de son vide, de son absence. Et de même, quand vous cherchez la mort dans la vie, ou bien ce sont des métaphores, ou c'est encore la vie que vous trouvez, c'est toujours et éternellement la vie, la mort vue par un vivant, donc c'est encore la vie. Et même quand Rilke parle de la mort dans les cahiers de Malte, Lauritz Brigg, je pense que cette mort de Malte, c'est encore la vie, c'est toujours la vie. Seulement, c'est une sorte de malédiction, on ne peut pas en sortir. Ça fait du reste la difficulté du plan que j'ai suivi, la mort avant, vue de la vie, la mort pendant qu'on meurt, et puis la mort après. Alors bien entendu, le premier chapitre est celui sur lequel il y a le plus à dire, la mort durant la vie. Bon, il y a beaucoup à dire parce qu'on parle d'autre chose.
Oui, on parle d'autre chose et vous insistez aussi, enfin un peu comme aurait pu le faire Husserl s'il avait abordé un sujet comme cela, sur la diversité du panorama mortel selon qu'on envisage la mort de la troisième personne, la mort de la seconde personne ou la mort de la première personne.
C'est cela, oui. Mais je crois que Gabriel Marcel avait dit cela aussi d'une manière très pénétrante, très profonde. Et puisque je prononce son nom, Gabriel Marcel disait que parler de Dieu, c'est parler d'autre chose. Et de même pour la mort. Parler de la mort, c'est parler d'autre chose, et quelquefois de choses et d'autres. En tout cas, c'est parler de la vie. Donc cette triple perspective, en effet, elle n'est pas, c'est pas une invention que j'ai faite. Beaucoup de gens la font comme moi. Mais je pense que l'optique privilégiée pour la mort serait celle de la deuxième personne. Ni la première, ni la troisième. Ça se comprend. C'est pas la première, puisque moi, de deux choses l'une, ou bien je parle et je suis vivant, par conséquent, je sais pas ce que c'est. Et en ce moment même, je sais pas ce que c'est, et j'en ai pas la moindre idée, pas plus que vous. Ou bien alors, ce sera moi quand je serai mort, et alors, allez toujours me chercher pour savoir ce qui se passe. Donc, de toute manière, ni après, ni avant, je ne suis utilisable. Mon message est inutilisable. Avant, il n'y en a pas. Après, s'il y en a, vous pouvez rien en faire. Alors, la troisième personne, elle... Eh bien, la troisième personne, c'est la mort conceptuelle. Donc, on peut beaucoup parler sur cette mort-là, mais elle est abstraite. Et c'est l'objet de la démographie, de la médecine, de l'hygiène sociale, de l'éducation, de que sais-je encore, ou tout simplement de la biologie. Si bien que la seule expérience privilégiée, si on peut dire, qui est celle de la douleur en même temps et du malheur, c'est celle de la mort du proche. Parce que la mort du proche remplit à la fois la condition de l'une et de l'autre. C'est un peu la mienne, sans être toutefois la mienne, puisque je survis à la mort de mon père, de ma mère, n'est-ce pas ? D'une part, donc je peux en parler, et bien qu'elle soit mienne. Et d'autre part, elle est quand même objective, elle remplit à la fois les avantages de la mort en troisième personne et de la mort en première personne. Si bien que c'est le point sur lequel je suis tangent à cet objet brûlant que je ne peux pas toucher. Nous sommes devant la mort comme un papillon devant la flamme d'une bougie, n'est-ce pas ? Probablement un point inatteignable, inatteignable, qui est comme la tangence dont je parlais il y a un instant, où vous touchez la flamme qui vous brûle sans que vous soyez dedans. C'est comme l'intuition. L'intuition, et c'est cela, cette acrobatie, avec une flamme dévorante. Vous vous rapprochez au plus près. Alors le mot important, c'est le plus près. Comment définir ce au plus près ? Quam proximum, n'est-ce pas ? Au plus près. Alors, c'est pourquoi c'est mon deuxième chapitre qui aurait été le plus important. Alors, supposez donc l'expérience pathétique qu'a faite Victor Hugo dans Les Derniers Jours d'un Condamné, qui est un livre génial, sans lequel on ne s'explique pas Dostoïevski ni Tolstoï. Et dans ce dernier livre, Victor Hugo suppose que le condamné à mort a griffonné quelque chose sur un papier jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où la guillotine va faire tomber sa tête. C'est une expérience de ce genre, tangentielle. Et j'avoue qu'elle est plus facile à concevoir théoriquement qu'à réaliser pratiquement.
De toute façon, on ne pouvait pas vous demander dans ce livre de soulever les secrets de la tombe. Mais enfin, ce qui m'a frappé d'un bout à l'autre, c'est l'éclairage neuf que vous réussissez à donner à la plupart des questions sur lesquelles s'interrogent tous les philosophes du XXe siècle. Les rapports de l'homme et de la durée, la destinée de l'homme. Et surtout, la question qui est revenue si souvent... depuis le succès de la philosophie existentialiste, de l'être et du néant.
Oh, je ne crois pas qu'il y ait rien de nouveau dans mon livre et dans son éclairage, vraiment. Non, mais ce qui est vrai, c'est que je ne m'occupe pas beaucoup de mes contemporains. Je fais ce que j'ai à faire, et j'ai essayé de penser la mort par moi-même. J'ai pris bien garde de ne pas appeler ça la mort et l'immortalité. Je ne sais rien, j'envie les certitudes de ceux qui ont une espérance, je ne les méprise nullement, au contraire, je ne fais que les envier, je ne les ai pas. Et c'est un livre de philosophie, d'autre part. Alors je ne parlerai donc pas de la foi et de son objet, et parfaitement respectable et honorable. J'écris un livre de philosophie, qu'est-ce que je sais ? Eh bien, encore une fois, je n'apporte rien à cet égard, je n'ai pas d'assurance à donner. Il y a deux choses que je peux dire. Et je crois que là, je ne suis pas un imposteur en les disant. La première, c'est que si la survie, pour moi, ce n'est rien, puisque je ne sais rien à cet égard, et que l'idée même d'une survie me paraît un anthropomorphisme, enfin vraiment naïf, et même puéril, en dehors d'une foi particulière. Par contre, le néant, pour moi, n'est rien de pensable. Si ça vous satisfait, moi, ça ne me satisfait pas. Je trouve qu'il n'y a rien de rationnel dans l'idée qu'un homme disparaît après avoir plié bagages, sans laisser la moindre trace. C'est quelque chose d'absolument inintelligible, à quoi ma raison se refuse, en même temps que le sentiment. Ça ne rend pas la survie plus rationnelle pour autant. Ils sont tous les deux irrationnels, et la rationalité de chacun des deux se nourrit de l'irrationalité de l'autre. L'esprit est renvoyé, oscille entre l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous voulez ? J'aimerais vous dire autre chose, mais je ne le peux pas. Je ne le peux pas, en tout cas, c'est bien négatif ce que je dis là. Je n'ai d'autre certitude que celle que me donne l'absurdité du néant, qui pour moi est inintelligible, la disparition de quelqu'un qui a vécu, qui a été, est pour moi quelque chose d'absolument irrationnel et absurde, et pour lequel, et de, non seulement contraire au principe de conservation, à cet égard c'est plutôt la palingénèse qui me plairait, à laquelle je voudrais croire, qui me paraîtrait même un peu rationnel. Enfin, je n'y crois pas non plus. Voilà la première chose. Elle est bien négative, mais enfin, elle n'est pas quand même rien, c'est pas rien du tout. Et alors la deuxième chose, qui est à peine plus positive, enfin un peu plus positive quand même, c'est justement ce sur quoi j'insiste à la fin du livre, dans le dernier chapitre, ce que j'appelle le mystère de l'avoir été, le mystère de l'avoir vécu, le fait d'avoir vécu. L'avoir vécu, je dis ça en latin parce que c'est laid, l'avoir vécu. Le fait d'avoir vécu, le fait d'avoir été. C'est le sens de cette promenade qu'on nous fait faire dans le firmament du destin, pendant quelques décennies. Quelqu'un a vécu, a souffert, a aimé, a dit des choses absurdes ou intelligentes, enfin a pensé, et puis a disparu sans laisser la moindre trace. Eh bien, ce passage en lui-même, enfin, serré entre ce commencement et cette fin, est quelque chose de surnaturel, de mystérieux, encore que ce mot soit un peu galvaudé.
Vous venez d'entendre Vladimir Jankélévitch qui nous parlait de son livre « La mort » publié chez Flammarion, collection Nouvelle Bibliothèque Scientifique dirigée par Fernand Braudel. François Valle va dialoguer avec Jacques Lacan. Jacques Lacan a publié au mois de novembre aux éditions du Seuil sous le titre « Écrit » un livre de 800 pages, livre qui reprend l'ensemble de ses textes sur la psychanalyse dispersés dans des revues spécialisées. Les mots et les choses, pour reprendre encore une fois le titre du livre de Michel Foucault, par la psychanalyse on saisit sur le vif le difficile cadrage de la conscience et du monde. D'abord parce que selon la psychanalyse, l'individu se dérobe à lui-même, mais aussi parce que sa relation à un univers de règles et d'institutions dans lequel il doit s'insérer, cette relation est forcée, donc faussée. Mais ce double aveuglement de l'homme, on peut essayer de le repérer par une enquête où la linguistique joue son rôle. Et cette enquête peut indiquer au psychanalyste l'étendue du mystère humain et ce qui l'organise radicalement.
Je n'ai publié ce recueil de mes écrits que pour rendre maniable un certain procès constructif à cela qui l'intéresse. Il ne s'adresse pas aux philosophes, quoique écrit en un langage qui est de tout un chacun qui a une formation classique. Chacun de ses écrits est fait pour les praticiens de la plus difficile des pratiques, laquelle exige une discipline de la pensée encore fort mal réalisée. C'est la psychanalyse, vous l'avez dit, dont il s'agit. Que le livre s'adresse seulement aux psychanalystes, qu'il s'adresse à eux, c'est certain, qu'il s'adresse seulement aux psychanalystes, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a donc ce premier temps de votre apport, même votre apport, qui est la dénonciation de la captation par l'imaginaire, et puis on peut grouper autour de ce texte, en un certain sens historique, qu'est le rapport de Rome de 1953, sauf erreur, et puis de textes comme la fameuse analyse sur la lettre volée, on peut décrire autour de cela un second type d'études par lesquelles la psychanalyse s'est greffée sur le mouvement qu'on dit structuraliste.
Il s'agit ici de tout ce qui est départ dans le fait que l'analyse est thérapie par le discours, par le langage, et de tout ce qui définit dans votre enseignement l'inconscient par le discours, très exactement, le discours de l'autre. C'est donc le thème de l'autre qui surgit ici.
Oui. Le discours de l'autre, c'est un thème de mon enseignement. Il faut ici écrire l'autre avec un grand A, car ainsi se distingue un ordre d'altérité mal distingué de ce que communément on appelle, en tant qu'existence qui s'impose plus ou moins à notre reconnaissance, voire à notre assentiment, ressentiment, disons, le semblable réel, si tant est qu'il faille le distinguer de l'image de tout à l'heure. Eh bien, l'autre, avec un grand A, c'est la scène de la parole, en tant qu'elle se pose toujours en position tierce entre deux sujets. Ceci seulement d'introduire la dimension de la vérité, laquelle est rendue en quelque sorte sensible sous le signe inversé du mensonge. Mais ceci n'est qu'approche. Si j'invoque cet autre, c'est pour y fonder la formule que le discours, mettons entre parenthèses, de l'homme, est le discours de l'autre. Qu'est-ce à dire ? Cet autre n'est pas un être. Justement, c'est qu'il s'agit là de situer la place possible et de sa nature inaccessible de l'inconscient. Car l'inconscient est un discours à sa manière, bien sûr, mais parfaitement reconnaissable à sa structure, qui est celle même du langage. Et nous voici dans la linguistique, et en effet, seule cette discipline, qui heureusement est une science si bien établie en ses principes qu'on a pu la qualifier dans le champ dit humain de science pilote, qu'elle fournit des concepts appropriés à rendre compte fort proprement des mécanismes de l'inconscient. Ceci peut surprendre du dehors, qu'on sache seulement un trait qui le confirme. La linguistique, au sens moderne, n'était pas constituée au temps de Freud. Ce que Freud décrit pourtant s'articule de façon parfaitement lisible comme mécanisme linguistique, au pluriel. C'est fort joli, n'est-il pas vrai? Pour faire entendre ceci qui est basal, il faut combattre de grands préjugés. Mais on peut le ramener à un préjugé simple. Confondre l'inconscient avec l'instinct. Instinct de vie, instinct de mort. Voir toute une école se battre avec ses registres dérisoires. Au reste, même pas maniable sous de telles rubriques. De sorte que pour une part de ses tenants, elle en rejette la moitié, nommément l'instinct de mort. Et que, du même coup, les autres deviennent ainsi tautologiques, que leur notion, d'ailleurs, est parfaitement désuète sur le plan biologique. Freud n'a jamais parlé d'instinct, mais de quelque chose dont le terme est en somme pratiquement intraduisible. Il s'agit du tribe.
La pulsion.
On le traduit par pulsion. Mais à la vérité, on le traduit surtout, enfin, soit en fait, soit mentalement, par instinct, avec pour résultat la confusion la plus parfaite. Comment au reste, ici, ne pas rappeler que il faut bien concevoir quelque chose qui rende compte de ce fait que la théorie de l'inconscient ait été, dans la découverte de Freud, lié dès son surgissement même à ce qu'on appelle le complexe d'Édipe. Voilà-t-il pas qui nous tourne vers l'autre et le grand autre, comme je dis, apparemment dans une incarnation qui la personnifie, celle du père archaïque, en tant que dans son meurtre a surgi mystérieusement le pacte de la loi primordiale. Alors, ce mythe fondé reste bien obscur, si nous ne pouvons articuler correctement la structure. Vous voyez se répéter le mot de structure. C'est un mot qui, encore que l'actualité s'en empare pour y impliquer des théoriciens, dont moi-même, qui sont sans doute fort conscients de ce qu'il implique pour eux-mêmes, prend fâcheusement la pente d'en englober d'autres sous une accolade beaucoup plus confuse.
C'est arrivé ici que tout de même je dois reprendre ce que je vous disais tout à l'heure et demander si d'autres que les analystes ne sont pas, plus que vous ne le dites, concernés par ces écrits, et concernés entre autres par le fait que, en décrivant ici une structure à travers l'écoute de l'inconscient, c'est la structure du sujet, de ce que traditionnellement on entend par le sujet, que vous décrivez, et nommément en mettant en question la simplicité et la centration, disons, de ce sujet.
La structure du sujet, voilà précisément le point auquel tout structuraliste n'est pas, comme à quelque chose d'allant de soi, intéressé. Et pourtant, c'est une question qui se pose à tout le monde, dans tous les champs, à condition qu'il s'agisse de formuler ces champs de façon scientifique. Elle équivaut à la question « Qu'est-ce que l'unité pensante ?» Puisque le sujet, c'est ça que ça veut dire. Du moins, tout le monde y croit. Eh bien, voilà. Si l'inconscient existe, il faut reviser cela. Mais jusqu'à la racine, il n'y a pas d'unité dans le sujet. Ça ne veut pas dire pour cela qu'on revienne au dédoublement de la personnalité. De romantique autant que fâcheuse mémoire. Pas d'unité ne veut pas dire qu'il y en a deux. Ce qui est seulement redoubler l'impasse. L'impasse que nous propose l'inconscient. Il y a des gens qui se feraient volontiers à l'idée d'installer en un quelque part qu'ils tiennent pour le psychisme toute une petite population d'unités. Non, l'inconscient n'est pas le mauvais moi, comme disait quelqu'un qui n'était pas précisément une lumière et que j'ai dû durant un temps assidûment pratiquer. Le problème est un tout petit peu plus compliqué. Il est lié à la structure de la répétition. Sur lequel, quiconque pense sur le mode du dernier échantillon que je viens d'en donner est voué à d'irrémédiables pataquès. Besoin de répétition ou répétition du besoin, par exemple. La répétition, ce phénomène fondamental de l'inconscient, si fondamental qu'il en est peut-être le plus fondamental, est ramené au retour de la colique du matin. Que par exemple, il faille recourir, en se déduit, aux plus récentes acquisitions de la logique, c'est ce qui est de nature à nous montrer que cette logique n'est pas du tout une science retardataire, ce qui est fort heureux. Si elle s'avère être elle-même une science fondamentale. Mais il faut dire que les irrégularités de son développement dans l'histoire, solidaire des aveuglements qui se manifestent encore dans notre temps dans l'appréciation des temps positifs de ce développement, manifestent bien qu'il y a là un domaine où les résistances de toute espèce se manifestent, qui, pour n'être pas du tout référable à ce fourre-tout qu'on appelle l'affectif, ramène la question de ce qu'il en est vraiment de la résistance. Et que c'est dans la structure, c'est-à-dire dans quelque chose qui a l'avantage d'être analysable, qu'il faut peut-être en trouver la racine. Bien entendu, n'est mis ici en cause que la prétention théoricienne, qui certes prend toute son incidence quand il s'agit de former des analystes. Ceci laisse de côté, que le public se rassure, le thérapeute. L'équilibre se maintient. C'est la seule forme dont le champ s'ordonne dans la pratique, qui, elle, de toute façon, ne connaît que la parole. Assez autonome sonne toute de la pensée du praticien. Guide son tact et son sens clinique, mais aussi bien les buts heureusement limités qu'il s'agit de remplir. Soulagement d'une situation pathogène, par exemple, ou résolution locale d'un symptôme. La question, posée au niveau où nous la posons, intéresse pourtant la transmission et surtout le progrès de cette pratique. Mais on le sent, pas seulement elle. Elle intéresse, dirons-nous, non pas tant le philosophe, au sens où la philosophie s'isole au titre d'un enseignement autonome, elle intéresse le philosophe au sens où celui-ci est présent en tout un chacun pour qui une pratique précise soulève des problèmes radicaux. Que les solutions que nous apportons à ces problèmes, les nôtres, reçoivent au niveau d'autres disciplines de singulières applications. Nous avons été amenés à publier ce volume, destiné surtout à écarter les malentendus qui s'engendrent d'une diffusion orale dont nous nous sommes trouvés le premier surpris.
C'était « 10 ans de création philosophique » par Pierre Cipriot, avec Michel Foucault, Vladimir Jankélévitch, Jacques Lacan, Pierre Serra et François Val.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 février 1967.